de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres, le pèlerinage commence aujourd'hui, 1000 congrégations de Tarwiyah à Mina. Les talibans annoncent un cessez-le-feu à l'Aïd al-Adha. Israël a ouvert le feu sur sud du Taliban. L'Iran et l'Ukraine négocient une indemnisation pour les victimes de l'accident. Le ministère de l'Industrie reçoit un engagement d'investissement pour les batteries des véhicules électriques. Le gouvernement poursuit le projet routier frontalier entre l'Indonésie et la Malaisie dans le nord du Kalimantan. Et la France ne doit pas réduire leur vigilance à l'égard de la COVID-19, a déclaré le ministre français de la Santé. Mon cher Jolitard, voici les nouvelles incomplètes. Le pèlerinage commence aujourd'hui, 1000 congrégations de Tarwiyah à Mina. Environ 1000 fidèles se sont rassemblés dans la vallée de Mina, à la Mecque, en Arabie Saoudite, mercredi 29 juillet, pour commencer la série de pèlerinages. Ils ont célébré le culte de Tarwiyah comme signe du début du pèlerinage Tarwiyah, resté à Mina avant de se rendre à Arafat. Il n'y a pas de rituel majeur dont les fidèles passeront jusqu'à jeudi, comme cité par Arab News, Mina, qui est à 7 km de la grande mosquée, accueille généralement au moins 2,5 millions de fidèles du monde entier qui vivent dans des tentes. Pas étonnant que Mina ait été surnommée la ville des tentes, mais les pèlerins de cette année ont été limités en raison de la pandémie de virus corona. Seuls les Saoudiens ou les étrangers qui étaient déjà dans le royaume étaient autorisés à participer au pèlerinage. Sur 1000 fidèles, environ 700 sont des expatriés. Les pèlerins ne sont autorisés à adorer cette année que ceux qui ont moins de 65 ans et ne souffrent pas de maladies congénitales. Les talibans annoncent un cessez-le-feu à l'Aïd al-Adha. Les talibans ont annoncé un cessez-le-feu de 3 jours en Afghanistan. Des démarches qui ont commencé à être menées vendredi 31 juillet ont été menées pour célébrer l'Aïd al-Adha. En outre, il marque la reprise des négociations de paix qui sont en place depuis longtemps. Le président afghan Ashraf Ghani a indiqué que le processus de négociation avec le Mali pouvait reprendre la semaine prochaine. L'annonce a été faite par les talibans après que Ghani ait déclaré que le processus d'échange de prisonniers qui avaient eu des entretiens progressait. Pour démontrer l'engagement du gouvernement en faveur de la paix, la République islamique achèvera la libération de 5000 prisonniers talibans. C'est ce qu'a déclaré Ashraf Ghani aux responsables du gouvernement, comme l'a rapporté à l'Algérie mercredi 29 juillet. Mentionnant le nombre de prisonniers que le gouvernement afghan avait initialement promis de libérer dans l'accord États-Unis, Taliban en février dernier. Israël a ouvert le feu sur sud du Liban. L'agence de presse d'État libanaise National News Agency rapporte que des soldats israéliens ont ouvert le feu sur des activités suspectes à la frontière. L'ANN a déclaré que les troupes israéliennes avaient tiré sur le village de Kfar Kla au sud du Liban. L'agence de presse turque Anadolu Agency a rapporté mercredi 29 juillet que les gouvernements israéliens et libanais n'avaient pas fait de déclaration concernant cet incident. Lundi, le ministre libanais des Affaires étrangères Nassif Hitti a déclaré que son gouvernement déposerait une plainte officielle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'attaque israélienne du 27 juillet. Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré lundi qu'elle avait déjoué une tentative d'infiltration de Hezbollah dans la région de Jabal Rous. Des médias israéliens antérieurs ont également rapporté qu'un groupe tentait d'infiltrer les fermes de Sheba situées au croisement de la frontière libano-syrienne et du plateau du Golan qui est maintenant occupé par Israël. Mais à travers sa déclaration, le Hezbollah a nié à l'accusation. L'Iran et l'Ukraine négocient une indemnisation pour les victimes de l'accident. Mercredi 29 juillet, la délégation iranienne s'est rendue en Ukraine pour discuter de l'indemnisation de l'avion de la compagnie aérienne ukrainienne, Ukrainian International Airlines, qui a été abattu dans la capitale Téhéran le 8 janvier. Le montant de la compensation est déterminé lors de la négociation. Le Boeing 737-800 de la compagnie aérienne ukrainienne s'est écrasé peu de temps après son décollage de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran. L'incident est survenu quelques heures seulement après que le corps des gardiens de la révolution islamique ait lancé des dizaines de missiles balistiques visant les troupes américaines en Irak en représailles aux meurtres de Qassem Soleimani, commandant des forces iraniennes de Quds. Environ 176 personnes ont été tuées dans l'accident, y compris des citoyens iraniens, canadiens, ukrainiens, suédois, afghans, allemands et britanniques. Après un certain temps, l'Iran a également admis que l'avion ukrainien avait été accidentellement touché par son missile. Le ministère de l'Industrie reçoit un engagement d'investissement pour les batteries des véhicules électriques. Le directeur de l'industrie maritime, des équipements de transport et des équipements de défense du ministère de l'Industrie, Poutou Juliardika, a déclaré que plusieurs entreprises s'étaient engagées à investir dans la production des batteries des véhicules électriques. Cela a été dit par Poutou Juliardika dans sa déclaration officielle reçue par l'agence de presse Antara mercredi à Jakarta. À Morowali, dans le centre de Sulawesi, par exemple, PTQMB New Energy Minerals SA a investi 700 millions de dollars américains. Un autre PT, Almaera Persada Legend SA, s'est également engagé à décaisser des fonds de 14,8 billions roupies à Almaera dans le nord de Molucques. En outre, pour la production de batteries, Cell Lithium Ion, un investissement de 207,5 milliards roupias a été décaissé par PT International Chemical Industry SA. La société produira jusqu'à 25 millions de batteries Cell Lithium Ion, ce qui équivaut à 256 mWh par an. Le gouvernement poursuit le projet routier frontalier entre l'Indonésie et la Malaisie dans le nord du Kalimantan. Le gouvernement poursuivra le projet routier frontalier entre l'Indonésie et la Malaisie dans le Kalimantan Nord pour une répartition équitable des résultats de développement dans toutes les régions indonésiennes. Ce réseau routier frontalier est une infrastructure stratégique pour l'État unitaire de la République d'Indonésie avec la fonction comme la défense et la sécurité nationale et le soutien d'un nouveau centre de croissance économique dans la région frontalière. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Travaux publics du logement Basuki Adimuljono dans une déclaration écrite reçue mercredi par l'agence de presse Antara Jakarta. Le ministère des Travaux publics et du logement a progressivement repris la construction de routes frontalières dans la province de Kalimantan du Nord sur 966,59 km. Le développement de l'infrastructure routière vise à améliorer la connectivité entre les régions ou à ouvrir l'accès aux zones isolées, ainsi qu'une répartition équitable des résultats de développement en dehors de Java, en particulier dans les zones frontalières. La France ne doit pas réduire leur vigilance à l'égard de la COVID-19, a déclaré le ministre français de la Santé. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a demandé mercredi à ses citoyens de ne pas réduire leur vigilance à l'égard de la COVID-19 et a déclaré que la France était toujours confrontée à une longue bataille. Véran a déclaré que le respect des règles de protection sociale était très important pour éviter de la réapplication du confinement national. La France a signalé mardi 14 nouveaux décès dus à la COVID-19, soit le double de l'augmentation de la moyenne quotidienne de 7 enregistrés pendant la semaine précédente. 30 223 personnes sont aujourd'hui décédées en raison de l'épidémie de COVID-19 en France, selon les autorités sanitaires. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « L'Idul Adha en pandémie ». Vendredi le 31 juillet 2020, les musulmans du monde entier célèbrent l'Idul Adha au fait du sacrifice de 1441 Hijri. Habituellement, la fête de l'Idul Adha est marquée par la mise en œuvre du Hajj à la Mecque et à Médine en Arabie Saoudite par des musulmans venus du monde entier. Cependant, le pèlerinage de Hajj de cette année est différent des années précédentes. Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement saoudien n'a autorisé que les citoyens saoudiens et les ressortissants étrangers qui avaient longtemps vécu en Arabie Saoudite à effectuer le pèlerinage de Hajj visant à briser la chaîne de propagation de COVID-19. Concernant les restrictions des pèlerins de Hajj imposées par le gouvernement de l'Arabie Saoudite, le gouvernement d'Indonésie a pris la décision de ne pas envoyer de pèlerins de Hajj à la Mecque en 2020. En outre, la mise en œuvre de la prière et de l'abattage des animaux sacrifiés est également une préoccupation du gouvernement et du Conseil indonésien des ulémas, ou MUI, en sortant des procédures de prière et d'abattage d'animaux. La procédure de conduite des prières et d'abattage des animaux vise à empêcher la propagation ou à éviter le nouveau cluster de COVID-19. À ce moment, au moment où ce commentaire est écrit, en Indonésie, le cas positif de COVID-19 a passé 104 000 cas avec des décès touchant près de 5 000 personnes. Outre les procédures de prière, un autre changement fondamental est l'activité d'abattage des animaux sacrificiels. L'abattage des animaux sacrificiels doit être conditionné à l'absence de rassemblement de masse pendant que les animaux sacrificiels sont abattus. Des autres impacts de la pandémie actuelle sont l'augmentation du nombre de personnes défavorisées et la baisse du pouvoir d'achat des personnes en raison d'une économie stagnante. L'existence d'un don de viande sacrificielle pour la communauté est très appropriée car de nombreuses personnes en ont besoin. En effet, l'Aïd al-Adha avec prière, la mise en œuvre de pèlerinage de Hajj et du sacrifice animal et d'accomplir le culte avec sincérité au Créateur comme ce qui a été fait par le prophète Ibrahim et son expérience spirituelle quotidienne. Le sacrifice en donnant les meilleurs animaux sacrificiels et en ne faisant pas volontairement le pèlerinage de Hajj à la ville sainte de la Mecque pendant une pandémie au profit du peuple au milieu de la peste est une forme d'obéissance au Créateur le plus miséricordieux. Sur la base des registres, le dirigeant de la Terre Sainte avait beaucoup interdit la mise en œuvre du pèlerinage en raison de la peste, du choléra et de la lèpre. Selon le Conseil indonésien des ulémas, l'existence d'une fatwa sur la prière et l'abattage des animaux sacrificiels au milieu de la pandémie de COVID-19, le peuple indonésien devrait être en mesure de pratiquer le culte conformément aux règles islamiques et d'éviter la transmission potentielle du virus corona. Plus important encore, ils sont invités à être plus disciplinés pour respecter le protocole de santé. Ainsi, la transmission de ce mystérieux virus peut être évitée et le nombre de cas positifs de COVID-19 n'augmentera pas. Bien sûr, le comportement de la discipline communautaire dans le nouvel ordre de vie est la plus importante clé pour réduire la transmission et l'impact de la pandémie de COVID-19. Chers auditeurs, c'est le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et maintenant, je vais vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, le 30 juillet 1920, on a organisé le premier Jamboree Scout mondial. Le premier Jamboree Scout mondial s'est tenu du 30 juillet au 8 août 1920 à Olympie, Londres, Angleterre. Environ 8000 scouts de 34 pays ont participé. L'une de ces activités était la reconnaissance des participants qui ont assisté à Baden Powell en tant que fondateur de scoutisme et on a reconnu Baden Powell comme le chef du scoutisme mondial. Dans ce jamboree, il y a aussi une exposition d'animaux sauvages. Chers amis, le 30 juillet 1930, première finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Coupe du Monde de la Fédération Internationale de Football FIFA 1930 est la première Coupe du Monde de la FIFA, le championnat du monde pour l'équipe nationale masculine de football. Le championnat a eu lieu en Uruguay de 13 au 30 juillet 1930. 13 équipes, 7 Amérique du Sud, 4 Europe et des Amériques du Nord ont participé au tournoi. L'Argentine, l'Uruguay, les États-Unis et la Yougoslavie ont remporté ont remporté leur groupe respectif pour se qualifier pour les demi-finales. En finale, le 30 juillet 1930, l'Uruguay, lors du tournoi, a battu l'Argentine, dont le score était 4-2. Il est devenu le premier pays à remporter la Coupe du Monde. Chers amis, la suite, l'événement du 30 juillet 1980, indépendance de Vanuatu. La République de Vanuatu est une nation insulaire de l'océan Pacifique du Sud. Ce pays s'appelait les Nouvelles Hébrides pendant la période coloniale. Vanuatu se compose de 83 îles. Dans les années 1880, la France et l'Angleterre ont revendiqué des parties du Vanuatu. Un mouvement d'indépendance a vu le jour dans les années 1970 et on a fondé la République de Vanuatu le 30 juillet 1980. Chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Kau buatku begini, lelah dan sakit hati. Ku tak mau lagi, teganya kau ucapkan, teganya kau ungkapkan. Kau telah menghancurkan perasaan ini. Ku kira engkaulah yang terakhir. Teganya kau ungkapkan, kau telah menghancurkan perasaan ini. Kukira engkaulah yang terakhir. Kini aku harus hancur.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Bon Indonésie intitulée Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche va réhabiliter 200 hectares de mangroves en 2020. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche vise à réhabilitation des mangroves sur une superficie de 200 hectares dans diverses zones côtières nationales en 2020. Le directeur général de la gestion de l'espace marin du ministère, M. Aryo Hanggono, dans un communiqué de presse à Jakarta dimanche, a déclaré que la réhabilitation des mangroves avait été effectuée en plantant des mangroves dans 12 sites, l'un des emplacements prioritaires est à Lampung Est avec une superficie de plantation prévue de 40 hectares, à savoir le village de Margasari et le village de Sriminosari. Selon M. Aryo, la réhabilitation des plants de mangroves à cet endroit vise à éviter l'abrasion et améliorer les écosystèmes marins. Non seulement cela, l'emplacement devrait également devenir une zone écotourisme qui peut fournir des moyens de subsistance alternatifs aux communautés côtières de la région de Lampung Oriental. Jusqu'en 2024, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche prévoit de planter 1800 hectares de mangroves. Un autre effort pour la réhabilitation des mangroves est de faciliter la localisation des mangroves par la construction de sentiers de mangroves et de centres d'apprentissage de la restauration des écosystèmes côtiers qui seront construits dans 10 districts ou villes en 2021. Cependant, le directeur de l'utilisation côtière et des petites îles de ministère, Mohamed Youssouf, a révélé que le forêt de mangroves stocke abondant réserve de carbone et sa fonction principale en tant que système tampon côtier contre l'abrasion due aux vagues et élévation du niveau de la mer. Il a dit que l'Indonésie possédait 23% des mangroves dans le monde. Les mangroves jouent un rôle important en tant que contrôle du carbone dans le monde, en plus de contrôler les écosystèmes marins. M. Youssouf a également invité la communauté à protéger les mangroves de la destruction, à utiliser l'écosystème de mangroves de manière judicieuse et maintenir sa durabilité parce que l'écosystème de mangroves est très vulnérable et limité. La plantation de mangroves de 200 hectares sera effectuée dans 12 sites en Indonésie, y compris la province d'Aceh et située dans la région de Nord d'Aceh, la province de Bangka Belitung située dans la région de Belitung, la province de Sumatra Occidental dans la région de Pasaman Ouest et la région de Pesisir du Sud, et aussi la province de Lampung dans la région de Lampung Oriental. Dans la province de Java Occidental, la plantation de mangroves a été effectuée dans la région de Cirebon, dans la province de Central de Java dans la région de Rembang, dans la province de Java Oriental, dans la région de Sampang et la région de Probolinggo et la région de Lamongan. Dans la province de Kalimantan Occidental, des plantations de mangroves ont été effectuées dans la région de Mempawah et la province de Nusa Tenggara Est, dans la ville de Kupang. Bon, chers amis, c'était la rubrique Bon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Seperti merakit perahu layar, ku bersiap untuk maju. Dengan hati yang gembira, menyambut pergantian waktu untuk berjumpa denganmu. Ku pastikan kau bahagia denganku. Kau kan melihat sungguh indahnya hidup ini. Tiada yang perlu kau sesali, karena semua akan baik-baik saja. Terus berpacu dalam irama lagu yang kan hiasi harimu. Thank you.
bersama diriku.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Bonsoir à tous, merci d'écouter notre programme La beauté de notre pays, Indonésie. Cette fois, nous vous informons la mosquée du centre islamique de Samarinda. Mes amis, la mosquée se situe au village Teluk Lerong Ulu, en ville de Samarinda, dans la province de Kalimantan Est. La mosquée a été construite en 2000. La déclaration a été réalisée à bon temps dans le Kalimantan oriental par le président Abdurrahman Wahid, ainsi qu'un certain nombre d'autres projets d'infrastructure. La pose de la première pierre a commencé le 5 juillet 2001 par le président Megawati Soekarnoputri et finalement il a été inauguré le 12 juin 2010 par le président Susilo Bambang Yudhoyono. Situé en face de la rive de la rivière Mahakam, la mosquée avec un bâtiment principal de 43 500 m² a une grande tour et un dôme. La superficie du bâtiment de soutien est de 7 115 m² et la superficie du sous-sol est de 10 235 m². La mosquée du centre islamique de Samarinda a une très belle architecture. La mosquée a sept tours avec une tour principale de 99 mètres de haut, en accord avec le nombre de Asma al-Husna, nom ou les bons noms de Dieu. Au-delà de la tour principale, le bâtiment possède également des six tours sur la côté de la mosquée. Quatre tours de 70 mètres de haut à chaque coin de la mosquée à deux tours de 57 mètres aux portes d'entrée. La mosquée se trouve sur une zone de 12 hectares avec l'étendue totale du bâtiment atteint 50 000 m². Cette mosquée a un dôme principal et les ornements d'or très belles. La source d'inspiration pour la construction de cette grande mosquée provient de la mosquée de Propert Ahmedin, combinée avec l'architecture de la grande mosquée à Turquie. Mosquée du prophète Ahmedin est continue par les désornements et des calligraphes étonnantes. En outre, ce bâtiment historique a une forte endurance physique, montrant toujours l'élégance. C'était notre programme La beauté de notre pays, Indonésie, ce soir. À demain. Papa, 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 papa.
lagi akan ku sesali. Tidak apa yang kan ku harapi, semua ku lalui, takkan pernah berhenti, yeah.
Trying to get you, trying to break you. Stone liver, baby. Don't you worry about things, makes you crazy. Yeah. Biarkan yang lalu pergi. Mari jalani hari yang baru. Jangan hilang semangatku.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Serge Littar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute! Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur, en formant sur DASEP, désinfectant naturel à base de vinaigre de bois. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les désinfectants à teneur en alcool contiennent à l'avenir des composés de métaux lourds dangereux. Non seulement une irritation cutanée, mais aussi un cancer de la peau, mais il peut également provoquer un cancer du poumon. S'il est inhalé pendant une longue période, Bien que l'utilisation des désinfectants pendant cette pandémie soit si grand face à cette situation, le Centre de recherche et développement des produits forestiers du ministère de l'Environnement et des Forêts de la République d'Indonésie, en collaboration avec la coopérative des producteurs Anugrah Bumi Hijau, a créé un désinfectant naturel qui s'est avéré très sûr pour la santé humaine. Les résultats de cette innovation sont les produits avec la marque DEACEP, fabriqués à partir de vinaigre de bois. Les produits à base de matières premières biologiques n'utilisent ni alcool ni produits chimiques. Par conséquent, ce produit désinfectant n'est pas nocif pour les humains ou les animaux domestiques. Même ces produits peuvent être utilisés comme aliments pour animaux et engrais végétaux. Cher ami, le PDG de la coopérative de producteurs Anugrah Bumi Hijau, Yohanis Walean, a expliqué que le vinaigre de bois ou l'acide du bois est l'un liquide produit par pyrolyse ou la décomposition thermique du processus de production de charbon de bois avec de faibles niveaux d'oxygène. Après des décennies d'utilisation réussie du vinaigre de bois comme biopesticide et biofertilisant, les chercheurs de P3HH ont mené des recherches plus poussées en utilisant du vinaigre de bois pour lutter contre la COVID-19. De même, les résultats de leurs produits se sont avérés efficaces après des tests réalisés au laboratoire environnemental P3KLHK. Chers amis, pendant le professeur Gustan Paris, Ratih Damayanti et l'équipe ont mené des recherches, les résultats de la recherche montrent que le vinaigre de bois a une meilleure capacité à inhiber la croissance des micro-organismes par rapport à 70% d'éthanol ou bien alcool, qui a souvent été utilisé comme ingrédient de base des désinfectants par les agriculteurs encouragés par P3HH. Les désinfectants contiennent généralement des composants alcooliques tels que l'alcool éthylique et l'alcool isopropylique. Ces produits chimiques sont inflammables et peuvent provoquer des infections cutanées. L'exposition à l'alcool peut également provoquer une irritation des voies respiratoires et avoir un impact négatif sur les systèmes nerveux central. L'utilisation de DEACEP comme désinfectant extérieur et intérieur combat efficacement le COVID-19. Le DEACEP n'est pas nocif pour l'homme, même s'il est ingéré, n'est pas dangereux. DEACEP est plus efficace que l'alcool à 70%. Bonjour, Zitar, c'est tout l'Indonésie en couleur. Merci beaucoup, au revoir.
Cinta ialah bualan dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti
telah aku mengarungi. Aku ingin bersandar menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan. Dalam dekapan aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Kapalku telah bersandar. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
C'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le magazine musical. Vous êtes avec moi, Audrey. Dans cette édition, je vais vous présenter la chanson intitulée Kangen. Cher ami, cette chanson est l'œuvre du groupe indonésien de la musique Dewa 19, sorti en 1992. On considérait la chanson Kangen comme l'œuvre la plus monumentale de l'histoire du groupe de musique Dewa 19. Kangen raconte d'un couple d'amoureux qui se manquent et qui veulent se rencontrer immédiatement. On a enregistré cette chanson comme une liste de chansons obligatoires ou la plus chantée dans de nombreux événements à l'école, au campus ou aux certains événements de recherche de talent en Indonésie. En 2002, deux autres meilleurs chanteurs indonésiens, Krish et Sofia Lachuba, ont à nouveau chanté la chanson Kangen sur l'album intitulé Décade. La collaboration entre Krish et Sofia a remporté le prix AMI dans la catégorie meilleure collaboration pop. Bon, chers auditeurs, voici Krish et Sofia Lachuba, dont le titre est Kangen, ou en français, Manqué. Bonne écoute.
Saja sedihmu itu
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.